disciples de certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela va se réaliser ?» Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi !» ou encore, « Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là des épidémies de peste et des famines, des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Que cet évangile efface nos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
À partir du moment où on a compris qu'on avait été choisi par Dieu, on a compris en même temps qu'il faudrait lutter. On a compris en même temps que ce ne serait pas forcément sur un toboggan fabriqué avec de l'huile que tout ça se réaliserait. Et Jésus, il ne veut pas cacher à ses apôtres, bien entendu, que c'est un royaume de combat, c'est un royaume de lutte, et lui-même commence ce combat comme premier sur le front, et il prend l'arme donc de la croix, et il dit dans l'Écriture et dans les Épîtres, même j'étais un peu étonné de ne pas l'avoir, je crois justement que c'est dans pas loin de ce passage, l'Épître aux Thessaloniciens, en disant mais si vous ne travaillez pas, comment pouvez-vous vous nourrir du pain des anges si vous avez la haine de la croix? Le vrai travail du chrétien, c'est la croix. Parce que la croix, c'est ce par quoi le travail sur nous-mêmes arrive à sa fin. Parce qu'il y a beaucoup de travaux, on peut faire beaucoup d'efforts pour vaincre l'orgueil, pour vaincre la vanité, pour vaincre l'impatience, pour vaincre la colère, pour vaincre les doutes contre la foi, etc. Enfin, toutes sortes de tentations. Eh bien, on n'y arrive pas. Il faut lutter avec tous ses moyens. Il faut, bien sûr, faire des actes contraires, de patience, des actes contraires, d'humilité, des actes contraires, de foi. Mais néanmoins, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si on veut aller jusqu'à la victoire, il faut étreindre le mystère de la croix et il faut aimer le mystère de la croix. Parce que la croix travaille l'homme à la manière d'un moule qui travaille sa matière d'une manière efficace. Vous voyez, le travail, c'est quoi? C'est que vous prenez au fond une matière, enfin, et puis vous lui donnez une nouvelle forme. Vous prenez par exemple un bloc de granit, et puis vous travaillez, vous donnez une nouvelle forme, une belle sculpture, à partir de ce bloc de granit, des grands coups de ciseaux dedans. C'est la transformation de la matière pour lui donner une nouvelle forme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour Jésus, pour Dieu, eh bien, la seule manière d'arriver à taguer l'homme de manière efficace, le seul instrument, le seul burin qui y arrive, bon, c'est la croix, c'est Jésus, c'est le mystère de la croix. Bon. Alors évidemment, le mystère de la croix, c'est cruel, quoi. C'est cruel, c'est pas drôle, mais ça va pas. Si, non, le mystère de la croix, évidemment. Si le mystère de la croix vous burine de l'extérieur, comme le burin frappe sur le marbre, les gens, ça fait mal, hein. C'est pas commode. Et bien, c'est pas comme ça que la croix travaille l'homme. La croix travaille l'homme de l'intérieur. La croix travaille l'homme d'une manière complètement différente que de l'extérieur. Et la croix travaille notre vie intérieure, notre vie humaine, d'une manière qui n'est pas désagréable du tout, justement. Ce qui n'est pas désagréable du tout, si on l'aime, si on n'hésite pas à étreindre le mystère de la croix, alors à ce moment-là, elle ne nous fait plus mal. Le mystère de la souffrance et de la croix ne nous fait mal que si on ne l'étreint pas à plein poumon. Il faut, d'une certaine manière... Alors là, ça fait mal, c'est vrai. Souvent, c'est à cause de ça qu'on a peur et qu'on finit par perdre nos forces. C'est parce qu'on a un peu peur et on ne devrait pas avoir peur. C'est pour l'amour, c'est pareil. L'amour entre un homme et une femme, par exemple, est quelque chose de très crucifiant si on ne se donne pas à fond. Mais si on se donne à fond, ça devient très agréable. Mais si on ne se donne pas à fond, de manière éperdue, dans une étreinte... on se fait arrêter par rien, non, ça devient très agréable. Et ça devient très constructif, très fécond. Mais si on s'arrête un tout petit peu, c'est pénible. Alors il y a la lutte, c'est le combat, on s'aime quand même, mais pas toujours facile. Et c'est un peu de la même manière. C'est un peu de la même manière. Jésus nous donne ici un évangile en disant, voilà, évidemment, à la fin du monde, attention, attention. Le Christ ne revient pas à la fin. Le Christ ne revient pas à la fin d'une manière extérieure. De même que le mystère de la croix ne va pas se planter en vous de manière extérieure pour vous faire souffrir, de la même manière, le retour de Jésus ne se dévoilera pas d'une manière extérieure. On vous parlera de rumeurs, de signes, de révélations privées, des gens qui diront, voilà, le Christ parle à travers moi, j'ai reçu une apparition du Christ que... J'ai reçu une apparition de la Vierge qui me dit que je reste ça. N'en croyez rien. N'en croyez rien. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Le mystère du Christ revient d'une manière toute intérieure. Et à la fin, surtout, il reviendra d'une manière toute intérieure. Bien sûr, il y aura, à cause du mystère d'iniquité, à cause de... Une chose qui est sûre, si vous voulez, c'est que le péché va augmenter de plus en plus. Ça, c'est sûr. Qui viendra de plus en plus dans l'extériorité, dans la visibilité, c'est le péché, c'est le mal, c'est l'abandon des principes divins, du respect de Dieu et de ses commandements. Et en même temps, l'avènement explicite de Satan et de l'Antichrist, explicite, de plus en plus. Voilà, ça c'est sûr. Voilà au niveau de l'extérieur ce qu'on pourra voir. Mais au niveau intérieur, vous voyez, quand on parle par exemple, je vais prendre un exemple, puisque vous êtes tous des initiés, alors, par exemple, prenons un exemple. On parle par exemple de l'avertissement. Vous avez entendu parler de l'avertissement. Alors, il y a plein de choses qui parlent d'avertissement. L'avertissement, et si nous recevons les prophéties sur l'avertissement, qui sont des prophéties purement privées, c'est pour ça que c'est parfaitement officieux ce que je vous dis ici, parce qu'on est entre nous. Hein. C'est dans une église, je ne parlerai pas de ça. Mais si on parle de l'avertissement, un peu. Si on le recevait comme nous le donnent les révélations privées et non pas comme nous donne l'Écriture, parce que l'Écriture nous parle de l'avertissement. Quand le signe du Fils de l'homme apparaîtra, tous le verront, et qu'à sa lumière, tous se regarderont, qui voudront se terrer dans les cavernes, et qui diront aux montagnes croulées sur nous, comme le dit le livre de l'Apocalypse, ça, la Bar-Sislan. Et avec ce mystère de la lumière de Jésus, à ce moment-là, ça devient quelque chose d'effrayant. C'est ce qui revient et on a peur. Hein, on se dit, mais la fin, enfin, et puis c'est que ça nous condamne. Et puis, on n'est pas prêt, on n'a pas du tout envie de ça. Mais nous, nous avons envie. Nous avons envie, nous, que Jésus, intérieurement, ait la victoire à l'intérieur de nous, surtout. C'est ça que nous voulons, nous, pourtant. Donc, vous voyez bien que Jésus dit, ne recevez pas les prophéties de cette manière. Ah, non! Mais quand Jésus reviendra, moi, je ne sais pas comment est-ce que je dirais ça, je dirais que quand Jésus va revenir, pas à la fin du monde, hein, je ne parle pas de ça, je parle justement d'avertissement. Mais c'est cette sixième trompette de l'Apocalypse, cette petite parousie, ce signe que tous verront, comment est-ce que l'interprète les saints, l'Esprit Saint? Et bien, il l'interprète de la manière suivante en disant, ben voilà, et Jésus, il verra qu'on est tous un petit peu enclués, qu'on a tellement de mal, qu'on est tellement paralysés, et il y a un phénomène d'inhibition, pourtant nous voudrions des saints, de plus en plus face à la montée du mal, face à la montée de l'athéisme, face à la montée de l'homme. Et regarder la télévision sans être complètement éclaboussé, et on a notre part, il y a toujours une complicité, et pourtant ça nous fait terriblement, c'est pas ça qu'on veut. Et vous voyez, et Jésus il verra ça, il verra toute cette innocence crucifiée partout. Alors, il va ouvrir un faisceau de sa lumière, de sa grâce à l'intérieur de toutes ces âmes qui ont soif de lumière, c'est-à-dire tous les hommes en fait, hein. Tous les hommes sont conditionnés par une espèce d'oppression, une chape. Alors à ce moment-là, Jésus ouvrira le paix de sa lumière pour que tout le monde voit l'état de son âme. Dans sa lumière d'amour, tout le monde pourra enfin voir cette soif d'amour qui est en lui, et en même temps à quel point il est loin d'accomplir cette vocation. Et en même temps, il montrera à quel point il veut remplir toute cette pauvreté que nous avons tous dans le combler de son amour, de sa miséricorde et de sa lumière. Et ce sera tout intérieur, évidemment, pour chacun d'entre nous. Et ce sera absolument extraordinaire. Ce sera une miséricorde merveilleuse de Jésus. Ce sera une réparation, une reconstruction intérieure, une régénération, une guérison, une illumination, une élévation de tous ceux qui sont dans la soif de Dieu. En même temps, pour ceux qui n'en veulent pas, et il va falloir, bien sûr, qu'ils se battent contre ça, qu'ils arrachent ça, qu'ils oublient ça, qu'ils feront de plus en plus de mal. Évidemment, et c'est là que sera le partage des sauts. Le partage des sauts se fera là. Parce que devant cette espèce extraordinaire miséricorde de Dieu, cet amour si brûlant de Dieu, il y a des gens qui seront nombreux, qui ne pourront pas échapper, si vous voulez, à ce qu'ils ont choisi. Ils s'y obstineront, et pour ça, il faudra bien sûr, comme le sait Sartre, je peux rappeler de Sartre. Sartre disait ceci, c'est que quand il était petit, enfin petit, il avait quand même 12, 13, 14 ans, il disait qu'il était dans une culture chrétienne, et que quand il était petit, il disait ça à un prêtre qu'il connaissait, j'ai lu ça un jour, il disait, j'avais l'appel de Dieu, du Christ, et tout ça, très fort, il m'appelait très fort. Sartre, attention, c'est un des plus grands athées de notre siècle, hein. Existentialisme athée, c'est ça. Et il avait un appel de Jésus très fort, de Dieu très fort, il appelait intérieurement très fort, mais il ne voulait pas ça. Et donc, il a compris assez vite, dans son intelligence déjà d'adolescent, de préadolescent, que s'il voulait vraiment ne pas répondre, il fallait qu'il fasse des actes contraires très violents. Et il a dit, j'ai blasphémé, j'ai injurié Dieu, mais des centaines, des milliers de fois par jour, pendant 3 ans, pour être débarrassé de ça, jusqu'à ce qu'il ouais. Il y aura quelque chose. Effectivement, l'appel de la mort de Dieu s'est arrêté pour ça. Et il a pu faire son œuvre, notamment dans la loge de la Rose-Croix, dont il était maître. Enfin, c'est une petite parenthèse, c'est rien du tout. C'est pas un maître, c'est un maître. Voyez bien l'avertissement. La fin des temps, comme le dit l'Écriture, Jésus fait mûrir l'humanité jusqu'à la moisson. Et à la fin, se fait cette extraordinaire maturité de la moisson, de manière que quand Jésus viendra pour faire les temps, il faut faire mûrir cette moisson. Pour faire mûrir cette moisson de manière définitive, il faut le soleil. Et le soleil, c'est l'avertissement. Mais le soleil, ce n'est pas la fin. La fin, c'est la moisson. Je veux bien comprendre. Donc, ce qu'on appelle ici le retour de Jésus, ce n'est pas, on ne doit pas en avoir peur. On doit au contraire, puisqu'on est le blé du Christ, désirer cet avertissement, désirer cette miséricorde de Jésus pour que notre sainteté atteigne enfin son terme. Pour que notre amour atteigne enfin sa réalisation, atteigne enfin son acte, s'incarne enfin quoi. C'est ça. Alors on aime que Jésus revienne le plus vite possible. Mais c'est pas parce qu'il va revenir, ce sera la fin du monde. Ah non. La fin du monde, on ne peut pas savoir quand c'est. La part aussi, on peut. C'est la différence entre les deux. Et vous voyez, puisqu'on est dans la dernière semaine du temps ordinaire, ce que nous disions hier, c'est une semaine où justement, on doit apprendre de plus en plus, mais à désirer que Jésus revienne. On doit demander à Jésus de nous faire comprendre, de nous faire vivre ça, que notre, la croix qui se plante sur la terre des hommes d'aujourd'hui, c'est-à-dire le mal, et cet appel à la rédemption du monde se plante en nous. Et qu'on souffre tellement que le mal est aussi difficile à vaincre dans le monde et en nous, que vraiment, je ne sais pas, à en pleurer, on demande que Jésus revienne le plus vite possible, à en pleurer. Vous voyez, on aime cette croix, on aime de comprendre que ce que Jésus a vécu, il a confessé le péché du monde, il a confessé le péché du monde, voilà ce que nous, ce que je vaux, voilà ce que l'humanité vaut, voilà. Et alors on en pleure de désir que Jésus revienne. Et si c'est pas ça, ça veut dire qu'on n'est pas chrétien, tout simplement. Vous voyez, c'est un petit critère merveilleux, c'est de savoir si on est chrétien ou pas. Si dès qu'on regarde vers le Père, on désire que Jésus revienne. Mais si on ne désire pas, ça veut dire que le christianisme n'existe plus en fait. Alors on est peut-être religieux quelque part. Il y a beaucoup d'illusions. Et c'est pour ça qu'il faut demander à l'Immaculée qu'on ait cette sensibilité d'amour, quoi. Attends, quand même, Jésus revienne. Et pendant cette dernière semaine, il faut faire vraiment, et il faut demander vraiment à l'Immaculée de nous aider à faire en sorte que ce soit pour nous la dernière semaine. Que ce soit pour nous la dernière semaine de notre vie sur la terre. Notre dernière semaine à nous. Chacun d'entre nous, il faut que ce soit notre dernière semaine. Alors, on y met toutes nos billes. On va faire comme Saint Jean-Borromée, si on doit passer des examens, on va passer des examens encore mieux. Si on est à l'université, si on est reporter à la radio, puis on fera des reportages les plus tristes possibles, puisque si c'est les derniers. Alors, les plus merveilleux, les plus extraordinaires. Si on fait oraison, et bien on fait les orations les plus parfaites possibles. Et si on utilise du sacrement, et bien on fait les confessions les plus pures, les plus grandes. Et si on vit de l'Eucharistie, envie de l'Eucharistie pour dire avant, c'est les dernières fois que j'ai eu l'Eucharistie. C'est ça la grâce de la dernière semaine du temps ordinaire que nous avons maintenant aujourd'hui à partir de cette 33.